France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Delis. Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
Deuxième épisode des Censurés aujourd'hui.
Tout à fait. Depuis quelques semaines, nous parcourons l'histoire de la musique à travers un de ses plus puissants paramètres, la censure, et comment les musiciens ont dû redoubler de créativité pour outrepasser les interdictions. L'histoire de la musique, c'est aussi comment on passe d'une interdiction à l'autre et comment on s'adapte. On l'a vu la semaine dernière, les Irlandais ont développé leur merveilleux lilting, cette imitation vocale du violon, parce que les Anglais leur avaient pris leurs instruments de musique.
Et donc aujourd'hui, une censure à très grande échelle qui a duré très longtemps.
Et oui, et qui dépasse un peu le terme et le concept de censure, à mon avis, parce qu'elle a été imposée il y a si longtemps qu'on a fait sans, dès les débuts, il y a plusieurs siècles. Cette censure a quand même façonné toute la musique chorale occidentale. Je veux parler de l'interdiction des femmes dans les chœurs religieux.
Cette idée, Christophe, vous est venue en répétition cette semaine, c'est ça ?
Absolument, j'entends toujours les chefs de chœur dire « De toute façon, les sopranos, sachez que vos parties étaient chantées par des enfants. » Et c'est quelque chose que les chanteurs tiennent pour acquis, pas de femmes à l'époque, dans les chœurs mixtes, dans la musique ancienne et religieuse, chez Praetorius, Bach, Handel, etc. C'est-à-dire que les chœurs, soprano, alto, ténor, basse, auraient étaient effectivement constitués, pour l'immense majorité, non pas comme aujourd'hui par des femmes et des hommes, mais par des enfants et des hommes. Et j'ai décidé de vérifier si c'était vrai. Tout est parti d'une citation mal interprétée de Saint Paul aux Corinthiens.
Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler.
Paf, voilà. Et tout de suite, on s'est dit, voilà, c'est écrit, les femmes doivent se taire dans les assemblées, donc elles ne doivent pas chanter. Sachant que d'autres passages de Saint Paul les autorisent en réalité non seulement à prier, mais à prophétiser et éduquer, donc il y a quand même un petit travail d'exégèse à faire. Mais il était trop tard, la tradition d'interdire les femmes dans les polyphonies religieuses était instaurée.
Les femmes ne chantaient donc pas à l'église.
Alors, en réalité, si. Déjà, dans les couvents, sans hommes, de facto, ça faisait partie de leur contrat dans leur vie religieuse, mais au XVe siècle, on remarque que l'église catholique a donné le droit aux femmes de chanter depuis l'assemblée, à l'unisson avec la congrégation. Mais c'est tout. On a même un document qui montre Bach en train de se faire disputer à Arnstadt en 1704 parce qu'il a osé faire chanter sa femme dans l'église. Or, d'un office en plus, c'était juste une répétition.
Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Non, voilà, il se serait fait crucifier. Et avec un motif en croix. Et on multiplie les documents qui vont évidemment dans ce sens-là.
Donc, pas de femmes dans les polyphonies anciennes.
Alors, si, quand même, exemples de chanteuses.
Vous me faites dire des choses fausses.
Mais oui, c'est ce que je fais de mieux. On a quelques exemples de chanteuses dans des oratorios. Matheson, par exemple, en 1715, fait chanter trois chanteuses d'opéra. Handel aussi fait quelquefois chanter des femmes dans ses oratorios. Alors, en plus de sa formation habituelle, un basse ténor falsettiste, donc homme qui chante en voix de fossé, et jeune garçon, Mozart aussi emploie des femmes des fois. Mais ça reste des exceptions. Alors, je vais vous laisser lire ce texte de 1828, Gabriel.
Y a-t-il spectacle plus désagréable que celui d'une femme debout, en présence d'une congrégation avec son cou qui ressort, criant par-dessus le chœur et l'orgue comme une mouette par-dessus la tempête?
Sympa, hein, ouais. C'est l'écrivain anglais John Latrobe en 1828. Alors par contre, sachez que hors musique religieuse, c'est tout bon. L'iconographie de la Renaissance et du Baroque nous montre plein de chœurs mixtes ou placés face à face pour chanter de la musique profane, des madrigaux de Monteverdi par exemple. Voilà, et je voudrais terminer, Gabriel.
Ah, déjà.
Oui, tous nos auditeurs à la maison, avec, ou dans la voiture, avec l'objet de cette série de chroniques, notre capacité d'adaptation face à la censure. Souvenez-vous, le premier son de cette chronique, le O Magnum Mysterium de Thomas Louis de Victoria, je vous l'ai fait entendre par des voix de femmes. Eh bien, je vais vous le faire écouter chanter tel qu'il a été conçu pour contourner l'interdiction des femmes par des voix d'enfants. Écoutez la différence de grain et de timbre. Tendez l'oreille. Magnum Mysterium de Thomas Louis de Victoria. Alors évidemment, je ne dis pas heureusement que les femmes étaient interdites de chant choral religieux mixte. En tout cas, c'est un cas particulier de censure parce que ce n'est pas comme si les femmes chantaient puis on leur a interdit. Là, on n'a finalement jamais vraiment conçu qu'on pouvait composer pour les femmes. Et il a fallu attendre 1958 pour la levée de l'interdiction par Pie XII. Je dis simplement que l'histoire de la musique, c'est aussi l'histoire de l'adaptation face à la censure.
Et la semaine prochaine, on aura donc une suite.
Une nouvelle censure.
Une nouvelle censure. Voilà. Merci Christophe.
Ah bon, merci à vous.
Bon week-end.
À vous aussi.
Et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.